12. Ils sont presque revenus dans l'allée quand Hodges est la proie de quelque chose de nouveau. Une morsure fulgurante derrière le genou gauche. Il a l'impression qu'on vient de le poignarder. Il crie de surprise autant que de douleur et se penche en avant, malaxant le nœud de douleur lancinante, essayant de le faire céder. Du moins, de le desserrer un peu. Tom se baisse à côté de lui, et c'est ainsi qu'aucun d'eux ne voit passer la vieille Chevrolet remontant lentement Hilltop Court. Sa peinture bleue délavée est parsemée de taches d'apprêt rouge. Le vieux monsieur derrière le volant ralentit encore pour pouvoir observer les deux hommes. Puis la Chevrolet accélère, relâchant un nuage de gaz d'échappement bleu, et dépasse la maison d'Ellerton et Stover en direction du demi-tour en épingle à cheveux à l'extrémité de la rue. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Tom. « Qu'est-ce qui se passe ?»«
Crampe !»
souffle Hodges à travers ses dents serrées. « Mais c'est là !» Les cheveux dans les yeux, Hodges lui lance un regard douloureusement amusé.
« Vous croyez que je fais quoi ?»«
Donnez !»
Tom Saubers, vétéran de la kinésithérapie du fait de sa simple présence à certains salons de l'emploi il y a 6 ans, écarte la main de Hodges. Il retire un de ses gants et appuie avec les doigts, fort.
« Oh, bordel, ça fait super mal !»«
Je sais, » dit Tom. « C'est comme ça. Essayez de mettre tout votre poids sur l'autre jambe. » Hodges obéit. La Malibu avec ses taches d'apprêt rouge délavées repasse lentement, se dirigeant vers le bas de la colline cette fois. Le conducteur s'autorise un autre long regard dans leur direction, puis réaccélère.
« Ça passe, » dit Hodges. « Dieu soit loué pour ses petites faveurs. »
Oui, ça passe, mais son estomac est en feu, et il a l'impression de s'être fait un tour de rein. Tom le regarde d'un air soucieux.
« Vous êtes sûr que ça va ?»«
Ouais, rien qu'une crampe. »
« Ou peut-être une thrombose veineuse profonde. »
« Vous n'êtes plus tout jeune, Bill. Vous devriez aller faire examiner ça. S'il vous arrivait quoi que ce soit pendant que vous êtes avec moi, Pete ne me le pardonnerait jamais. Sa sœur non plus.
On vous doit beaucoup. »
« Oui, je m'en occupe. J'ai rendez-vous chez le docteur demain, » dit Hodges. « Allez, partons d'ici. On se les gèle. »
Il boite sur les 2 ou 3 premiers pas, puis la douleur disparaît complètement et il arrive à marcher normalement. Plus normalement que Tom. Grâce à sa rencontre avec Brady Hartsfield en avril 2009, Tom Saubers boitera pendant le restant de sa vie. 13. Quand Hodges arrive chez lui, son estomac va mieux, mais il est claqué. Il se fatigue vite ces jours-ci. Et il se dit que c'est parce qu'il n'a plus d'appétit. Mais au fond de lui, il se demande si c'est vraiment ça. Sur le chemin du retour, il a entendu 2 fois le bruit de verre brisé, suivi de la joyeuse annonce du home run. Mais il ne regarde jamais son téléphone quand il est au volant. En partie parce que c'est dangereux et illégal dans cet état. Surtout parce qu'il refuse de devenir l'esclave de son portable. De plus, pas besoin d'être médium pour savoir qui lui a envoyé au moins un des textos. Il attend d'avoir accroché son manteau dans le placard de l'entrée, touchant brièvement sa poche intérieure pour s'assurer que le capuchon de l'objectif est toujours là. Le premier message est de Holly. « Faudrait qu'on parle à Pete et Isabelle. Appelle-moi d'abord, j'ai une cue. » L'autre n'est pas d'elle. Il dit « Le docteur Stamos doit vous parler d'urgence. Vous avez rendez-vous demain à 9h. Ne le ratez pas, s'il vous plaît. » Hodges consulte sa montre et bien que cette journée semble déjà avoir duré au moins 1 mois, constate qu'il est seulement 4h15. Il appelle le cabinet du docteur Stamos et tombe sur Marley. Il la reconnaît à sa voix enjouée de pom-pom girl qui devient grave lorsqu'il se présente. Il ne sait pas ce que donnent ses examens, mais ça ne peut pas être bon. Comme l'a dit Bob Dylan, on n'a pas besoin d'un monsieur météo pour savoir d'où vient le vent. Il essaie de négocier pour 9h30 au lieu de 9h, car il veut d'abord discuter avec Holly, Pete et Isabelle. Il ne veut pas croire que sa consultation avec Stamos puisse être suivie d'une admission à l'hôpital. Mais il est réaliste, et cette douleur soudaine à la jambe lui a foutu une sacrée trouille. Marley le fait patienter. Hodges écoute les Young Rascals un moment, qui doivent être de sacrés vieux scélérats maintenant, se dit-il.
puis elle revient vers lui. « C'est bon pour 9h30, monsieur Hodges, mais le docteur Stamos me fait dire qu'il est impératif que vous vous teniez à ce rendez-vous. »«
C'est grave ?» demande-t-il sans pouvoir se retenir.
« Je n'ai pas d'informations sur votre dossier, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous devriez vous occuper de ce qui ne va pas le plus vite possible. Vous ne croyez pas ?»«
Vous avez raison, » dit Hodges gravement. « Je serai là demain sans faute. Et merci. »
Il raccroche et fixe son téléphone. En photo de fond d'écran, il y a sa fille à l'âge de 7 ans, lumineuse et souriante, voltigeant haut dans les airs sur la balançoire qu'il avait installée dans le jardin quand il vivait sur Freeborn Avenue. Quand ils étaient encore une famille. Aujourd'hui, Ali a 36 ans. Elle est divorcée, en thérapie, et en train de se remettre d'une relation douloureuse avec un homme qui lui a raconté une histoire aussi ancienne que la Genèse. « Je vais la quitter bientôt, mais là, c'est pas le bon moment. » Hodges pose son téléphone et soulève sa chemise. Sa douleur au côté gauche est redevenue un léger murmure, et c'est une bonne chose. Mais il n'aime pas le gonflement qu'il voit sous son sternum. C'est comme s'il venait d'engloutir un énorme repas, alors qu'en fait, il n'a pu avaler que la moitié de son déjeuner et un bagel au petit déjeuner.
« Qu'est-ce que tu nous fais ? » demande-t-il à son estomac enflé. « J'aimerais bien avoir une petite idée avant mon rendez-vous de demain. »
Il imagine qu'il pourrait avoir tous les renseignements qu'il veut en allumant son ordinateur et en allant sur WebMD. Mais il est porté à croire que l'autodiagnostic par Internet est un piège à con. Il appelle plutôt Holly. Elle veut savoir s'il a découvert quoi que ce soit d'intéressant au 1588.
« De très intéressant, tu veux dire. Mais pose ta question avant que je me lance. »
« Est-ce que tu penses que Pete peut essayer de savoir si Martin Stover était en train de s'acheter un ordinateur ? Vérifier ses cartes de crédit ou quoi ? Parce que celui de sa mère était une antiquité. Si c'est le cas, ça veut dire qu'elle était sérieuse à propos de ce cours en ligne. Et si elle était sérieuse, alors... »
Les chances pour qu'elle ait conclu un pacte suicidaire avec sa mère baissent considérablement.
Oui.
Mais ça n'exclut pas le fait que sa mère ait pu prendre la décision seule. Elle a pu verser les médicaments et la vodka dans la sonde gastrique de Stover pendant qu'elle dormait, puis terminer le travail dans la baignoire.
Mais Nancy Alderson dit...
Qu'elles étaient heureuses, ouais, je sais. Je tenais à le souligner, c'est tout. J'y crois pas vraiment.
Tu as l'air fatigué.
Juste le petit coup de barre de fin de journée. Je vais manger un bout, ça va me requinquer.
Jamais de sa vie, il n'a eu aussi peu envie de manger. Mange beaucoup, tu es trop maigre. Mais dis-moi d'abord ce que tu as trouvé dans cette maison vide.
Pas dans la maison, dans le garage.
Il lui raconte. Elle ne l'interrompt pas. Elle ne dit toujours rien quand il a fini. Holly oublie parfois qu'elle est au téléphone. Alors il la relance.
« Qu'est-ce que t'en penses ?»«
Je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est juste complètement bizarre tout ça. Tu trouves pas ? Ou je me trompe ? Peut-être que je dramatise ? Ça m'arrive des fois. »
« Sans blague, » pense Hodges. Mais il ne pense pas que ce soit le cas cette fois, et le lui dit.
Elle répond. « Tu m'as dit que tu doutais que Jenny Sellerton... et puis accepter quoi que ce soit d'un homme en parka rapiécé et pantalon d'ouvrier.
En effet.
Alors ça veut dire...
Maintenant, c'est lui qui reste silencieux.
Ça veut dire qu'ils étaient deux. Deux. Un pour lui donner le zapit et le questionnaire bidon pendant qu'elle faisait les courses, l'autre pour espionner sa maison, et avec des jumelles. Des jumelles coûteuses. Il est possible que ces deux hommes... ne travaillez peut-être pas ensemble, mais... »
Il attend, un petit sourire aux lèvres. Quand Holly fait travailler ses méninges à fond, il peut presque entendre les rouages s'engrainer derrière son front.
« Bill, tu es toujours là ?»«
Ouais, j'attends juste que tu craches le morceau. » »«
Eh bien, je pense que si, justement, ils travaillaient ensemble. En tout cas, c'est mon avis. Et qu'ils ont peut-être quelque chose à voir avec la mort de ces deux femmes. « Voilà, t'es content ?»«
Oui, Holly, je suis content. J'ai rendez-vous chez le docteur demain à 9h30. »«
Les résultats de tes examens sont arrivés ?»«
Ouais. J'aimerais organiser une entrevue avec Pete et Isabelle avant. »« Est-ce que 8h30 c'est bon pour toi ?
Bien sûr.
On va tout leur dire. Alderson, la console de jeu que t'as trouvée au 1588. Voir ce qu'ils en pensent. Ça te va ?
Oui, mais elle en pensera rien.
Tu as peut-être tort.
Peut-être. Et demain, le ciel peut virer au vert avec des pois rouges. Va te préparer quelque chose à manger maintenant.
C'est ce qu'il va faire, lui dit Hodges. Et il se réchauffe une soupe de poulet au vermicelle pendant qu'il regarde les infos. Il mange presque tout, espaçant bien chaque cuillerée, s'auto-encourageant.
Tu peux le faire, tu peux le faire.
Alors qu'il rince son bol, sa douleur au côté gauche revient, accompagnée de ces mêmes tentacules s'enroulant autour de ses reins. Elle semble plonger et remonter avec chaque battement de cœur. Son estomac se contracte. Il veut courir aux toilettes, mais c'est trop tard. Alors il se penche au-dessus de l'évier et vomit, les yeux fermés. Il les garde ainsi pendant qu'il cherche à tâtons le robinet et le tourne au maximum pour rincer le carnage. Il ne veut pas voir ce qu'il vient d'expulser, parce qu'il sent un filet de sang dans sa bouche et dans sa gorge.
« Aïe !» se dit-il. « Là, c'est grave. C'est très grave. »
14. 20 heures. Quand la sonnette retentit, Ruth Scapelli est en train de regarder une émission de télé-réalité idiote qui sert en fait de prétexte à montrer de jeunes hommes et femmes se baladant en petite tenue. Au lieu d'aller directement à la porte, elle traîne ses pantoufles jusqu'à la cuisine et allume l'écran de la caméra de surveillance installée sous le porche. Elle habite dans un quartier tranquille, mais à quoi bon prendre des risques ? Comme aimait à le dire sa défunte mère, la vermine voyage. C'est avec surprise et malaise qu'elle reconnaît l'homme à l'entrée. Il porte un pardessus en tweed, manifestement coûteux, et un trilby en feutre avec une plume coincée dans le ruban. Sous le chapeau, sa parfaite chevelure argentée confiée aux mains d'un grand coiffeur flotte théâtralement autour de ses tempes. Il a une fine mallette à la main. C'est le docteur Félix Babineau, responsable du service de neurologie et big boss de la clinique des traumatisés du cerveau de la région des Grands Lacs. La sonnette retentit à nouveau et elle se dépêche d'aller lui ouvrir, pensant « Il ne peut pas savoir ce que j'ai fait cet après-midi. La porte était fermée et personne ne m'a vu entrer. « Détends-toi, ça doit être autre chose. Peut-être une question syndicale. » Mais bien qu'elle soit membre de l'Union infirmière depuis 5 ans, le docteur Babineau n'a jamais discuté de questions syndicales avec elle avant. Il ne la reconnaîtrait même pas s'il la croisait dans la rue, à moins qu'elle porte son uniforme. Ce qui lui rappelle ce qu'elle porte en ce moment. Une vieille robe de chambre et des pantoufles encore plus vieilles, avec des têtes de lapin dessus. Mais il est trop tard pour se changer à présent. Au moins, elle n'a pas de bigoudi dans les cheveux. « Il aurait dû téléphoner avant », se dit-elle. Mais la pensée qui suit est troublante. « Peut-être qu'il voulait me prendre par surprise. »«
Bonsoir, docteur Babineau. Entrez, ne restez pas dans ce froid. Excusez-moi de vous accueillir en robe de chambre, mais je ne m'attendais pas à votre visite. »
Il entre et reste planté dans le vestibule. Elle doit le contourner pour refermer la porte. Vu de plus près, elle se dit qu'il est peut-être aussi peu présentable qu'elle. Elle est en robe de chambre et pantoufles, certes, mais lui a les joues hérissées d'une barbe de 3 jours, grisonnante. Docteur Babineau, il ne viendrait à l'idée de personne de l'appeler docteur Félix, a beau être du genre gravure de mode, en témoigne l'écharpe en cachemire bouffante enroulée autour de son cou, ce soir, il aurait bien besoin d'un petit coup de rasoir. De plus, il a des valises violettes sous les yeux.
« Laissez-moi prendre votre manteau, » dit-elle.
Il pose sa mallette entre ses chaussures, déboutonne son pardessus et le lui tend, ainsi que sa luxueuse écharpe. Il n'a toujours pas dit un mot. Les lasagnes qu'elle a mangées au dîner, délicieuses sur le moment, semblent sombrer et entraîner son estomac par le fond.
« Aimeriez-vous ?»« Suivez-moi au salon, » dit-il,
et il la dépasse comme si c'était lui le propriétaire des lieux. Ruth Scapelli lui emboîte le pas au trot. Babineau prend la télécommande sur l'accoudoir du fauteuil,
la pointe en direction de la télévision et coupe le son. Les jeunes hommes et femmes continuent de s'affairer dans tous les sens, mais sans le baratin insipide du présentateur. Scapelli n'est plus seulement mal à l'aise, elle a peur. Peur pour son boulot, oui, pour le poste qu'elle a obtenu au prix d'un travail si dur, mais aussi pour elle-même. Il a dans les yeux un regard qui n'est pas du tout un regard, mais seulement une espèce de vide.
« Voulez-vous boire quelque chose ?
Un soda ou une tasse de... »« Écoutez-moi, infirmière Scapelli, et très attentivement, si vous voulez garder votre poste. »«
Je... » »«
Et ça ne s'arrêterait pas à la perte de votre emploi. » Babino pose sa mallette sur l'assise du fauteuil et soulève les astucieux petits fermoirs en or. Ils émettent des claquements sourds en s'ouvrant. « Vous avez commis un acte d'agression sur un patient mentalement déficient. Un acte qui pourrait recevoir la qualification d'agression sexuelle. Et vous l'avez ensuite accompagné de ce que la loi appelle une menace criminelle.
Je n'ai jamais... »
Elle s'entend à peine. Elle se dit qu'elle risque de s'évanouir si elle ne s'assoit pas. Mais il a posé sa mallette sur son fauteuil préféré. Elle traverse le salon pour aller jusqu'au canapé, se cognant en chemin le tibia contre la table basse, presque assez fort pour la renverser. Elle sent un mince filet de sang couler jusqu'à sa cheville, mais ne regarde pas. Si elle regarde, c'est sûr, elle va s'évanouir.
« Vous avez tordu le téton de M. Hartsfield. » Puis vous l'avez menacé de faire la même chose à ses testicules.
« Il m'avait fait un geste obscène !»
explose Scapelli.
« Il m'avait fait un doigt d'honneur !»«
Je veillerai à ce que vous ne retravailliez plus jamais dans le milieu médical, »
dit-il, le regard plongé dans les profondeurs de sa mallette, alors qu'elle s'effondre sur le canapé, au bord de la syncope. Sa mallette porte ses initiales en monogramme, dorées à la feuille, bien sûr. Il conduit une BMW flambant neuve et sa coupe de cheveux a dû lui coûter $50, peut-être plus. C'est un patron dominateur et autoritaire. Et voilà que maintenant, il menace de ruiner sa vie à cause d'une seule petite erreur, un seul petit écart de conduite. Le sol pourrait s'ouvrir et l'avaler, que ça lui serait égal. Mais sa vision est d'une clarté perverse. Elle a l'impression de voir le moindre filament de la plume dépassant du ruban de son chapeau, le moindre vaisseau écarlate dans ses yeux injectés de sang, le moindre vilain poil gris hérissant ses joues et son menton. S'il ne l'éteignait pas couleur argent, se dit-elle, ses cheveux seraient de cette même couleur pelage de rat. Des larmes commencent à couler, des larmes chaudes sur ses joues froides.
Je vous en prie, docteur Babino.
Elle ne sait pas comment il sait, mais ça n'a pas d'importance. Le fait est qu'il sait.
« Je ne le referai plus jamais, je vous en prie. Je vous en prie !»
Docteur Babino ne se fatigue pas à répondre.